Ce matin, j'aimerais donc qu'on puisse continuer notre parcours dans la première épître de l'apôtre Jean. On continue texte après texte, justement, pour ne pas louper une partie de ce que Dieu a transmis au travers de cet écrit de l'apôtre Jean. Jean est un très très bon pédagogue parce qu'il rappelle les vérités. Et en fait, son épître donnerait une vérité, il fait un tour, il donne une deuxième vérité. Il l'expose, une troisième vérité, et ainsi de suite. Et donc, la construction se fait beaucoup par rappel, et à chaque fois, il rajoute une notion supplémentaire. Ce matin, on va voir ce qu'on a déjà vu, qu'il y a un lien entre la foi en Christ et l'appartenance avec la famille de Dieu. Il y a un lien entre aimer Dieu et aimer tous ceux qui ont foi en Christ. Et puis, il y a aussi on pourrait parler de ce cercle vertueux. Aimer Dieu, ça rejoint à aimer les frères, mais aussi à aimer les commandements de Dieu. Et ça, on l'a déjà vu. Mais ici, l'apôtre va rajouter quelque chose de supplémentaire. La clé pour vivre notre foi dans le quotidien. Face à une société qui n'est pas sur la même longueur d'onde, il va nous montrer comment pouvoir vivre cette foi, cette vie d'enfant de Dieu dans le quotidien. Alors, on va lire la première épître de Jean au chapitre 5. Le texte va vous être affiché parce qu'il est dans Parole vivante. En fait, si j'ai choisi Parole vivante, parce que c'est une transcription de la Bible et en même temps, il y a une part explicative dans la traduction et qui aide beaucoup quand on se plonge d'une manière directe dans le texte. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont enfants de Dieu. Et ceux qui aiment Dieu le Père aiment aussi ses enfants. Comment savoir que nous aimons les enfants de Dieu? Nous les aimons si nous aimons Dieu et si nous obéissons à ses commandements. Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas difficiles. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors on va s'arrêter sur le texte, mais ce que nous montre ce texte ce matin, c'est que la foi vivante en Christ est la clé pour vivre Dieu dans notre société. Notre réelle foi en Christ a un impact immédiat, un impact maintenant. Et ce n'est pas juste un aspect spirituel avec des conséquences dans l'au-delà, mais tout de suite et aussi pour toujours. Christ est la victoire pour notre vie actuelle. Et la foi vivante en Christ, c'est la clé pour vivre Dieu dans notre société. Croire en Christ réellement, ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel ou croire à la réalité de Christ, croire que Christ a existé, mais c'est croire réellement. Les forces occultes nous disent la parole de Dieu, crois en Jésus. Ils croient que Dieu existe, ils croient que Jésus existe et même qu'il est victorieux. Pourtant, le fait de savoir qu'il est là n'est pas une foi réelle en lui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils tremblent et ils connaissent déjà l'issue de leur choix, c'est leur défaite. La Bible parle de croire, c'est pas donc juste une connaissance, mais c'est de placer toute notre confiance en lui. Toute notre confiance en sa personne, en ce qu'il a fait pour nous, par sa mort à la croix et par sa résurrection, qui est le signe de la victoire sur le péché. Sur le péché, alors des hommes, mais sur mon péché, sur notre péché d'une manière personnelle, si on le croit pour nous personnellement. J'ai une question. À qui feriez-vous confiance d'une manière aveugle? Croire en Christ, c'est faire encore plus confiance que l'on pourrait se faire confiance ou faire confiance à la personne la plus fiable que l'on connaisse. C'est avoir encore plus qu'une confiance aveugle. C'est vraiment placer toute sa vie entre ses mains. Et le texte de ce matin nous dit que croire en Christ de cette manière-là, hein, a un impact familial et immédiat. Nous avons un Père qui est Dieu et nous sommes rattachés pour toujours et définitivement à cette famille. Et en même temps, nous sommes enlevés, arrachés à le lien que l'on avait avant. Et ce lien, c'est celui de l'ennemi de Dieu qui avait la tutelle sur notre vie. Qui dit une nouvelle paternité dit une nouvelle famille. Et donc, on n'est pas juste des croyants tout seuls, même si on est séparés, qu'on est par écran interposé. Hein. On n'est pas des chrétiens tout seuls et je ne suis pas le seul racheté sur la terre. Tous les rachetés par Christ sont les enfants de Dieu, sont la famille de Dieu. Tous les rachetés par Christ. Ça ne dépend pas d'une religion, ça ne dépend pas d'une église, ça dépend de Christ. Tous les rachetés par Christ font partie de la famille de Dieu. Et dans cette nouvelle dynamique de famille, l'amour n'est pas sélectif. Hein ? Alors, on a peut-être, nous, une notion de l'amour qui est assez sélective. On aime bien certains, puis d'autres un petit peu moins bien. Dans la famille de Dieu, ce que nous dit le texte de ce matin, c'est que l'amour n'est pas sélectif, il n'est pas à la carte, mais l'amour vécu avec le Père, pour ce qu'il a fait au travers de Christ, implique un amour vécu avec tous les rachetés par Christ. C'est un vrai amour, et on s'est arrêté les fois dernières, au chapitre 3 et au chapitre 4, sur ce qu'était la notion de l'amour, comme en parle la parole de Dieu. L'amour est un amour qui prend les devants, c'est un amour qui est engagé, qui est délibéré, c'est un amour qui est sacrificiel, un amour qui se donne et qui donne, et c'est un amour relationnel, en opposition avec un amour égoïste. Alors, l'objectif est très élevé, aimer les autres de cette manière, aimer tous les rachetés de cette manière, l'objectif est élevé. Aimer Dieu aussi de cette manière est aussi quelque chose, un objectif très très élevé. Et on pourrait dire qu'on vient de loin, parce que nous avons les mauvais réflexes de notre vie souillés par le péché. Alors, Dieu, ici dans le texte de ce matin, par la plume de l'apôtre Jean, donne un repère pour savoir si nous sommes dans l'expression de cet amour. Un repère, mais aussi en même temps une aide précieuse. Il est parlé de commandements. Et les commandements dont la parole de Dieu parle, c'est des commandements qui projettent dans la pensée de Dieu, qui sont là pour rappeler la pensée de Dieu et ce que Dieu désire pour notre vie. Et les commandements de Dieu, on les retrouve dans la parole de Dieu, la Bible. Peut-être quand on parle de commandements, on pourrait se poser la question, qui sont-ils ces commandements ? Que devons-nous en faire et à quoi s'opposent-ils ? Alors, qui sont-ils ? Alors, peut-être que dans l'apôtre Jean, quand il écrit cela sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, il y a ces versets très connus, 34 et 35, de son évangile au chapitre 13, qui disent « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Vous voyez, on retrouve cette idée de l'amour de la famille de Dieu. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ça, c'est un des commandements donnés spécifiquement par Jésus, qui fait partie de d'autres commandements qui nous aident à exprimer la vie de racheté et qui nous aide à mieux aimer Dieu. Mais ce n'est pas l'unique et le seul commandement. Quels sont ces commandements que Dieu nous donne dans sa parole ? Alors c'est assez simple, il y a les paroles que Jésus a données, comme celles que je viens de lire là à l'instant, et il y a aussi tous les commandements qui nous sont donnés aussi dans les épîtres. La Bible donne aussi énormément d'autres commandements, hein. Et nombreux se trouvent aussi dans l'Ancien Testament, donc avant la venue de Jésus, avant sa mort et sa résurrection. Et des fois, on se pose la question, mais que devons-nous faire de ces commandements, les commandements qui sont dans l'Ancien Testament ? Alors, intuitivement, mais surtout avec l'aide de l'Esprit de Dieu, Nous comprenons que certains commandements étaient temporaires et ne sont plus d'actualité pour les racheter par Christ. Par exemple, pour nos péchés, on ne fait plus de sacrifices comme c'était l'usage et le commandement dans l'Ancien Testament. Quand vous faites vos courses, vous venez pas me rapporter 10% de l'amande que vous avez achetée, vous ne venez pas me rapporter 10% des lentilles que vous avez achetées, parce que ça, c'était aussi des commandements qui étaient dans l'Ancien Testament. Donc, on comprend intuitivement et avec l'aide de l'Esprit que certaines choses ont été données en préparation de la venue de Jésus, mais avec la venue de Jésus, tout cela s'est arrêté. En fait, pour savoir si certains commandements de l'Ancien Testament sont toujours d'actualité, là encore, notre repère va être Christ. Christ a tout accompli à la croix. En lui, tout commandement a été vécu parfaitement. Donc, on va reprendre et prendre les commandements, alors qu'ils sortent de la bouche de Jésus, ça c'est sûr, et on les trouve principalement dans les évangiles. On va prendre les commandements qui sont dans les épîtres. Alors ça, évidemment, vu que les disciples, les apôtres sont les contemporains de Jésus, les garants de la pensée juste que Jésus a transmis avec l'aide de l'Esprit, les ont consignés. Et on va reprendre dans l'Ancien Testament tous les commandements qui sont repris dans les paroles de Jésus et dans les épîtres. Tous les autres étaient transitoires. Tous les commandements qui sont repris dans les évangiles et dans les épîtres sont des commandements qui sont toujours valables pour nous maintenant. Les autres étaient transitoires. Et vous voyez comme la parole de Dieu est finalement très simple et s'articule autour de la personne de Jésus. Jésus les a accomplis, tous les commandements, donc tout ce qui était avant et qui était préparatoire et qui ne sont pas repris dans les évangiles et dans les épîtres, eh bien, était quelque chose qui était transitoire. Tous ceux qui sont repris après dans les évangiles, dans les paroles de Jésus et dans les épîtres, eh bien, nous avons le devoir de les vivre avec l'aide de Dieu. Alors, que devons-nous faire de ces commandements ? Le texte de ce matin nous parle de les garder, d'obéir et de les vivre. Dieu avait donné, par exemple, tout au début de l'humanité, des commandements à Adam. On les retrouve dans le deuxième chapitre de la Bible, en Genèse 2. Je vous lis. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. » Commandement super simple. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Donc Dieu a donné des commandements à Adam, un commandement super simple, celui de cultiver et de garder. Alors on connaît malheureusement la suite, c'est que Adam a failli à garder le jardin en laissant Ève manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas gardé l'ordre de Dieu, il n'a pas gardé le commandement que Dieu avait donné. Donc quand Dieu donne un commandement, l'idée c'est qu'on puisse les vivre réellement, ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel, il demande à ce qu'on puisse les vivre réellement parce que ça a un impact pour tout de suite, pour maintenant. Alors rien n'a changé pour les commandements que Dieu nous donne au travers du Nouveau Testament, dans ses paroles ou dans les épîtres. On est appelé à les connaître, donc à les connaître en lisant la parole de Dieu, la Bible, et on est appelé à y obéir, à tout cela éclairé au regard de ce que Christ a fait pour nous et avec son aide. Alors, vivre les commandements de Dieu, c'est effectivement pas évident, pour deux choses. À la fois parce que le péché colonise notre vie, même si on est racheté par Christ, le péché colonise toujours nos vies. On a des mauvais réflexes qui vont souvent à l'encontre des commandements que Dieu nous donne. Et l'autre problème, c'est qu'il y a souvent, il y a un décalage entre les commandements de Dieu et la pensée qui nous entoure, la pensée de la société qui nous entoure, la pensée du monde, comme nous dit le texte ce matin. Et souvent, pour traduire la pensée de notre société, la Bible utilise le terme « monde ». Derrière le terme « monde », c'est à la fois le système de pensée, c'est aussi les personnes qui sont impliquées dans ce système de pensée, et c'est aussi le fait que ce système de pensée et ces personnes sont sous la tutelle de l'ennemi de Dieu, Satan. la pensée donnée par Dieu dans ses commandements s'oppose effectivement à la pensée et à la manière de faire de notre monde. La sainteté ne peut pas être rejoindre ce qui est souillé par le péché. En plus, il n'y a aucune issue s'il n'y a pas l'œuvre de Christ qui vient résoudre ce problème. Alors, en tant que racheté par Christ, en tant qu'enfant de Dieu, comme on l'a vu dans ce texte, nous sommes confrontés à une opposition d'idées et de manières de faire. Ça génère forcément une certaine frustration et un décalage, et même des fois, ça peut même susciter une certaine crainte, une certaine peur, voire même créer du découragement. Et finalement, d'être tout le temps à contre-courant, des fois on n'a peut-être même plus la force d'aller dans le sens inverse des idées qui nous entourent, et finalement des fois on se laisse aller, ou on pourrait se laisser aller dans le flot de pensée de la société qui nous entoure, au lieu de suivre les commandements de Dieu. Mais le texte de ce matin est très encourageant, parce qu'il nous dit comment être victorieux par rapport à ce cercle qui serait négatif, qui nous conduirait à laisser les commandements de Dieu. L'idée de ce texte, c'est de triompher du monde. Alors, ce n'est pas de pourfendre les personnes qui sont autour de nous, hein, rassurons-nous, mais c'est de triompher du système de pensée et des valeurs qui sont communiquées dans la pensée de notre société. Donc, de triompher pour que nous soyons vainqueurs par Christ. Pourquoi ? Parce que lui l'a déjà vaincu. Et tout cela, le secret, vous l'avez vu à la fin du texte, il est question de la foi vivante en Christ. Et quand la Bible parle de cette foi, c'est à la fois le contenu de la foi, on a foi en quoi, et la vigueur, la force de notre foi, est-ce que c'est quelque chose de vivant ou est-ce que c'est quelque chose de théorique ? Plus notre foi sera vivante en Christ, donc ça c'est en Christ, c'est le contenu, hein, plus notre foi sera vivante et entretenue, moins on se fera piéger par le système de pensée et d'agir de notre société. Plus on entretient notre foi, mieux on sera conscient de ce que Dieu désire pour lui. Attention, dans le texte ce matin, on pourrait croire que la victoire sur la manière de penser de notre société, la manière d'agir de notre société, pourrait venir de l'observance des commandements, ou voire même de la foi, si la foi avait une valeur intrinsèque. Mais ce que nous montre le texte, c'est que c'est Christ qui est le secret de la victoire. Donc c'est la foi en Christ qui fait quelque chose. La foi toute seule ne fait rien du tout. Et une foi réelle et entretenue en Christ nous rapproche toujours plus de lui. On comprend davantage sa victoire, ses commandements font sens, et par amour, identité, loyauté, j'ai envie de vivre ses commandements avec son aide. Mais c'est Christ qui est le garant de cette victoire. Une foi en Christ délaissée, à l'inverse, nous éloigne, les relations sont distantes avec lui, nous sommes plus ou moins conscients de son œuvre, on voit moins sa victoire, on baisse les bras. Plus rien n'est vraiment lisible pour nous, on a une crise aussi d'identité, et les commandements de Dieu nous semblent un petit peu décalés par rapport à notre société. On se sent mal à l'aise, et au lieu d'être lumineux, on vit un espèce d'entre-deux. Le secret, la clé, c'est Christ, et qu'on place toute notre foi, notre confiance, et qu'on recherche davantage à mieux le connaître et ce qu'il nous a donné pour qu'il puisse agir dans notre vie. La clé, c'est Christ. Pour pouvoir profiter de ce qu'il a fait, l'idée, c'est de placer notre foi en lui. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte de ce matin, le verset 1 nous disait que c'est par la foi qu'on rentre dans la famille de Dieu, par Christ. C'est par la foi que l'on rentre dans la famille de Dieu par Christ. Et là, c'est exactement le même chemin pour être victorieux de ce qui nous entoure, que ce n'est pas un impact négatif dans notre vie. Eh bien, c'est toujours par la foi en Christ qu'on peut triompher du système de pensée des choses qui sont autour de nous. Cette foi nourrie nous aide après à vivre les commandements de Dieu. Et si on vit les commandements de Dieu, c'est plus par reconnaissance qu'on les vit. Et ce n'est plus par une obligation qui nous amènerait à pouvoir triompher de quelque chose. Observer les commandements est plutôt un acte d'identité, un acte de reconnaissance, un acte qui émane du fait qu'on est enfant de Dieu. Les commandements en tant que tels, ce n'est pas eux qui nous font triompher justement de la pensée qui nous entoure, de la manière d'agir qui est en nous. Seul Christ peut le faire parce que Christ, lui, a vaincu à la croix. Les commandements n'ont rien vaincu à la croix. La foi n'a rien vaincu à la croix. Seul Christ a vaincu à la croix. Et je vous propose, dans cette idée, avant qu'on regarde quelques implications et réflexions par rapport à ce que nous dit ce texte, à entonner un cantique qui pointe justement sur la personne de Jésus. Très beau cantique, « Aime Jésus ». Très joli cantique, simplement « Aimer Jésus ». Et c'est le cœur du texte de ce matin. J'aimerais juste revenir, prolonger la réflexion par rapport à ce texte sur deux points. Que faire des commandements, hein, et puis quel aussi impact ça a dans notre éducation pour nous qui avons des enfants, nous qui sommes croyants et pour lesquels on aime et on veut leur donner une éducation chrétienne. Que faire des commandements ? L'obéissance aux commandements de Dieu, alors ce que l'on va retrouver donc dans les paroles de Jésus, dans les épîtres, sont plus en lien avec l'amour qui nous lie à Dieu. En fait, vivre les commandements que Dieu nous donne sont plus notre manière d'exprimer notre affection, notre amour, notre reconnaissance. C'est plus en lien avec la fidélité, la loyauté. Et c'est aussi l'expression de notre nouvelle identité, l'identité de la famille de Dieu. Si je suis de la famille de Dieu, je vis les commandements de Dieu. Le terme d'ambassadeur est aussi utilisé pour les croyants. Un ambassadeur représente la politique de son pays, il ne représente pas la politique d'un autre pays. Et c'est pour ça aussi qu'on veut vivre les commandements de Dieu. C'est par aussi expression de notre identité en Christ. Et la victoire, et je vais le répéter, la victoire sur le système de pensée qui est autour de nous ne va pas dépendre de notre observation des commandements, mais elle dépend de Christ et d'une foi vivante, réelle, attachée à Christ. Ce n'est pas mon obéissance biblique qui va avoir un impact sur le monde, c'est Christ au travers de ma vie qui va avoir un impact autour de moi. C'est parce que j'aime Christ que je vis ses commandements. Mais c'est Christ qui va avoir un impact. C'est pas l'observation de commandements. Et si je prends le temps de le souligner, c'est qu'il n'y a pas de méthode efficace face au monde, face à mes problèmes. Hein, il n'y a pas de méthode efficace. La Bible nous montre qu'il n'y a qu'une personne, c'est Christ. Il n'y a pas un truc, quelque chose qu'il faut faire qui marcherait. Il n'y a qu'une personne, c'est la personne de Christ. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les méthodes, tout ce qu'on peut vous dire, même de biblique, etc., n'ont rien triomphé à la croix. Hein. Celui qui a triomphé à la croix, qui a vaincu, c'est Christ. Toutes les méthodes, même bibliques, quantifient les effets et les résultats. Quand on a une méthode, l'objectif d'une méthode, c'est voir si on a réussi ou pas réussi. Hein. Avec de la satisfaction, de la déception, finalement, qui vont dépendre de comment je réussis à observer ou à pas observer cette méthode. Et en cas de réussite, tout le mérite, finalement, revient à la méthode, parce que c'est une méthode qui marche, hein, super, ou à celui qui la pratique, ouais, je suis super fort, j'ai réussi à mettre en œuvre cette méthode. Mais même si elle est biblique, on va être très content en disant « Ah oui, ben c'est ce commandement dans ma vie qu'il faut que j'applique. Ah super, j'y arrive vraiment. » Et finalement, tout le mérite revient au commandement, à moi, mais le mérite ne revient pas à Christ. Il faut toujours se méfier quand quelqu'un nous dit une méthode. Quand quelqu'un nous propose une méthode, Christ est écarté. La personne que l'on recherche, la victoire dans tout ce que l'on va pouvoir vivre, c'est la personne de Christ. Lui est monté à notre place sur la croix et y a triomphé. toutes les méthodes, tout ce qu'on peut nous donner, même si c'est biblique, n'ont aucune efficacité. Seul Christ a de l'efficacité parce qu'il a tout remporté à la croix. Et après, on va vouloir appliquer ce que nous dit la parole de Dieu, on va vouloir le vivre par reconnaissance, par identité, hein, par loyauté, par fidélité. Mais il ne faut pas mettre les choses dans le sens inverse. Forcément, la personne qui sera délaissée, ce sera Christ. L'autre aspect que j'aimerais souligner concerne notre possible volonté d'éduquer nos enfants avec des préceptes qui sont issus de la parole de Dieu, certainement aussi des commandements de la parole de Dieu. Et certainement qu'on a peut-être envie d'avoir une éducation qui est tirée de la parole de Dieu. Alors c'est super, hein. J'en ai été au bénéfice, mes parents étaient croyants et j'étais au bénéfice d'une éducation et inspiré des valeurs de la parole de Dieu, des commandements de la parole de Dieu. D'ailleurs, Dieu approuve cette démarche. Pour preuve, quand on regarde les critères pour choisir des responsables dans une assemblée, eh bien, il y a la manière de faire, comment on a éduqué les enfants. Et si on n'a pas été en mesure de pouvoir les éduquer, justement, avec tout ce que nous montre la parole de Dieu, eh bien, logiquement, on ne sera pas apte à pouvoir conduire une assemblée. Donc, ça montre que c'est bien de vouloir élever, éduquer nos enfants avec une pensée issue de la parole de Dieu, issue des commandements de la parole de Dieu. En revanche, ça pourrait avoir un aspect néfaste. Et ça, c'est pas le problème de l'excellence de ce que Dieu nous propose, c'est le problème du péché. Le péché a cette capacité en nous de vriller tout ce qui est bon. Les bonnes intentions que Dieu donne, eh bien, il arrive à les détourner pour faire quelque chose des fois qui pourrait aller dans le sens inverse. Et c'est un petit peu ça que j'aimerais souligner pour que ça puisse pas nous décourager dans notre éducation avec des enfants et les éduquer dans les préceptes bibliques, dans les commandements bibliques, mais que ça puisse peut-être motiver notre prière justement pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent découvrir au-delà de ces préceptes, la personne de Christ est bien mesurée que ce n'est pas les préceptes qui sont importants, mais la personne de Christ. L'objet de l'éducation, c'est de fixer un cadre dans lequel les enfants vont s'exprimer. Et ce cadre, la Bible nous encourage à ce qu'il soit inspiré de la pensée de Dieu, des commandements bibliques que l'on retrouve dans sa parole. Lorsque j'y obéis, et avec satisfaction, ça me pousse à continuer. Mon obéissance alimente aussi la satisfaction des parents. Mais il peut se créer cette compréhension qu'en obéissant, je suis mieux, je suis vainqueur et je suis favorable. Plus j'observe peut-être que je me dis, ben finalement je suis mieux, je suis, j'arrive à faire des choses bien et je suis favorable. Malheureusement, dans ce système de pensée, l'œuvre de Christ sur la croix peut-être me semble moins forte quand je suis enfant, éduqué dans ce cadre-là, parce que l'éducation a permis de gommer ou de contenir, sans le résoudre, des aspects qui sont des aspects que la Bible réprouve. Et ça peut avoir aussi des conséquences quand on est plus grand, même quand on est racheté par Christ. Parce que je peux entretenir ce mécanisme qui fait de moi quelqu'un qui répond aux lois, aux commandements, et qui est autosatisfait, et qui est en fait dopé par cette satisfaction de l'observation. Comme enfant, en répondant aux commandements, j'étais satisfait, ceux autour de moi étaient satisfaits, je peux avoir aussi cette conception, quand je suis plus grand, que répondre aux lois de Dieu augmente mon autosatisfaction. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que Christ est autant mort à la croix pour moi, enfant qui ai grandi avec des préceptes chrétiens, avec des parents croyants, et la puissance de la croix est tout aussi déterminante pour un enfant éduqué dans un cadre chrétien que dans un cadre qui ne le serait pas. Et surtout insister sur le fait qu'il n'y a rien de méritoire. Et c'est là où des fois, on a peut-être un petit décalage qui se met dans la tête pour les enfants croyants. Il n'y a rien de méritoire dans ma vie quotidienne de croyant. Tout est par grâce. Et c'est par reconnaissance et avec l'aide de Dieu que j'ai envie de vivre à la ressemblance de Christ. Et que je désire vivre ses commandements. Finalement, comme tous les autres croyants. Que ça nous aide, nous, si on a été éduqués comme ça, à ne pas croire que ce mécanisme d'observation, d'autosatisfaction est quelque chose qui me bonifie. La seule personne qui me bonifie, c'est Christ. Que ce que l'on a vécu n'est plus une émanation de notre reconnaissance par rapport à ce que Christ a fait, mais qu'en rien, ce que l'on a vécu, ce qu'on a observé est quelque chose de méritoire ou amoindrirait la force de la croix. Alors que ça ne nous décourage pas en tant que parents à continuer à éduquer, à élever nos enfants dans la foi et qu'on puisse prier justement qu'il n'y ait pas ce décalage dans leur tête que finalement, comme j'obéis à papa et maman et qu'ils sont satisfaits et que c'est des commandements bibliques, ben finalement je suis peut-être moins méchant que les autres, que finalement j'aime Jésus mais la force de la croix serait moins importante et que finalement, ce mécanisme aussi perdure après. Plus j'obéis, plus je suis méritoire et plus ça me satisfait. Notre satisfaction, elle est en Christ. Il n'y a rien de méritoire, tout est par grâce. Et que ça nous aide vraiment à prier pour nos enfants, pour aussi les enfants, si on n'en a pas, les enfants de l'Assemblée, ceux que l'on connaît, à qu'ils aient une juste perception de qui est Dieu et ce qu'il a fait en Christ. Christ est tout aussi nécessaire pour le pire des criminels que pour l'enfant modèle d'une famille chrétienne. Il est tout aussi nécessaire. Qu'on puisse prier pour que Dieu montre l'état de péché, même si je suis dans un cocon de valeurs chrétiennes. Mon âme est tout aussi perdue quand je suis enfant d'une famille de croyants que quelqu'un qui ne serait pas d'une famille de croyants. Mon âme est tout aussi perdue et j'ai tout autant besoin de Christ. La force de la croix est tout aussi déterminante. Peut-être prier aussi pour que ces raisonnements, ces mécanismes ne se fassent pas dans la tête de nos enfants ou que Dieu les brise aussi, peut-être nous qui sommes adultes, et qu'on ait une plus grande perception de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est tout aussi déterminante pour un enfant qui observe l'éducation issue de la parole de Dieu que pour tout autre enfant qui n'aurait pas ce privilège-là. Que ça puisse être une motivation à les éduquer dans les préceptes bibliques, c'est très très utile, mais par contre, après qu'on ait pour les enfants, qu'ils aient une bonne perception de l'œuvre de la croix, de la grâce de Dieu et de la juste place justement de l'observation des commandements de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse chanter « Tu es venu jusqu'à nous ». Après quoi, on aura un temps d'annonce de l'Assemblée et on chantera un autre cantique.